Merci à vous tous d'être là. Je suis très touché. Merci bien sûr de votre invitation, M. Fournier. Et donc, je voudrais vous parler d'automobile, mais je voudrais rassurer ceux qui ne sont pas des amoureux. L'automobile, j'ai un regard sur l'automobile qui est un regard très, très particulier. Un regard particulier pendant qu'un chat se fait écraser par une automobile, vous l'avez entendu. Pourquoi je vous parle d'automobile? Tout simplement parce que j'ai, en tant qu'historien, je suis historien, j'ai eu la chance de pouvoir lire d'une façon totalement libre les archives des constructeurs automobiles français. C'est-à-dire que une entreprise, elle a derrière sa vitrine, son showroom où elle met des voitures, il y a bien sûr des entreprises et il y a évidemment des dirigeants d'entreprise qui réfléchissent aux stratégies que peuvent demander l'automobile. J'ai eu la chance inouïe de pouvoir commencer d'abord par travailler sur quelques entreprises françaises. J'ai commencé, c'est un hasard, par Citroën. J'ai prolongé par Peugeot, tout ça pour chacune des marques dans une thèse de doctorat différente. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur Renault. Et tout ceci s'est fait eh bien, grâce à des rencontres. Et vous imaginez bien que quand on va donner à un prof d'université les clés des archives d'une maison comme Peugeot, comme Citroën ou comme Renault, mais également Simca et Chrysler France, eh bien, c'est que la direction vous fait confiance dans le sens où vous respectez les archives. Vous n'avez rien à inventer. Par contre, le deal, c'est que je n'ai rien à cacher. C'est-à-dire que si on me donne les archives, je peux librement, en fin de compte, les utiliser et évidemment les croiser. Parce que ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est bien sûr de croiser ces archives, de voir, en fin de compte, ce que des entreprises qui sont pour moi très différentes en France sur l'automobile, comment des entreprises peuvent réagir en fonction, bien sûr, d'un produit. Et c'est le produit, en fin de compte, qui va nous entraîner dans une réflexion sur la spécificité française dans le domaine de l'automobile. Alors, je prendrai bien sûr une logique chronologique. Je commencerai par les débuts de la voiture et on arrivera à une époque qui est assez proche de la nôtre. On viendra évidemment sur... pas sur notre époque, parce que c'est plus de l'histoire. Et je voudrais d'abord commencer par la naissance de l'automobile. Je pense que vous savez tous que la voiture n'est pas américaine. Elle n'est pas née aux États-Unis. L'automobile, elle est née en Europe, elle est européenne. Et s'il fallait pousser un petit cocorico, eh bien je pense qu'il serait utile de dire que la voiture, elle est quand même pas mal française. Pas uniquement, mais elle est pas mal française. Elle est née la même année, 1890, donc c'est vraiment à la fin du 19e siècle, c'est un produit du 20e, mais elle arrive à la fin du 19e, autour de trois entreprises, qui sont les trois premières. Ne me demandez pas qui est la première, parce que je ne le sais pas, pour la bonne raison que les archives ne montrent pas avec précision qui sort la première voiture. Mais je dirais que ça n'a pas d'importance. C'est au même moment, des hommes assez proches, des ingénieurs, présentent des engins qui se déplacent tout seuls avec quatre roues. Ces entrepreneurs, ingénieurs, qui vont proposer des voitures, je donne quand même trois noms tout de suite, ce sont les trois pionniers, ce sont les trois premiers. C'est, par ordre alphabétique, pour ne froisser personne, c'est un Allemand, c'est Daimler, qui donnera plus tard la marque que vous connaissez tous, Mercedes. C'est un Français qui s'appelle Panhard, qui a un associé qui s'appelle Panhard et Levasseur. Les moins jeunes connaissent Panhard puisque ça a été une marque automobile jusqu'en 1967. Et la troisième entreprise, elle est aussi française, c'est Peugeot. Autrement dit, eh bien oui, Daimler, Panhard, Peugeot, voilà en fin de compte trois entreprises qui sortent au même moment un engin qu'on va appeler une automobile. Autour de quoi naît donc cette automobile? Alors, je suis obligé de commencer par cela. L'automobile, elle naît autour d'un moteur. Je passerai, mais on pourra, si vous voulez, l'évoquer plus tard, si vous avez des questions. sur le moteur de cette automobile. Le moteur que vous avez sous les yeux, c'est le moteur allemand. Et c'est en cela que Daimler est important. Parce que Daimler, qu'est-ce qu'il apporte dans l'automobile ? Il apporte le moteur à essence. Et c'est vrai que ce moteur à essence a supplanté le moteur électrique, le moteur à vapeur. Je ne veux pas dire que le moteur à vapeur était mauvais, je ne veux pas dire que le moteur électrique n'était pas bon. Tous avaient des avantages. Et j'ai même envie de dire que le moteur à essence, c'était celui qui avait le moins de contraintes. Mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, je crois, c'est le moteur électrique. Il va plus vite. Le moins cher, c'est le moteur à vapeur. Mais il est encombrant. Moteur à essence, c'est en fin de compte un bon compromis. Ça permet en fin de compte de développer l'automobile. Incontestablement, les rois du moteur à essence sont les Allemands. C'est Daimler. Et Daimler, qui est un ingénieur de polytechnique, qui est très aidé, par des ingénieurs électriciens, et je pense à Bosch, et je pense à Siemens, dont vous voyez combien déjà se dessine, en fin de compte, la force, la puissance de la future industrie automobile allemande. Vous voyez, entre Mercedes, Bosch et Siemens, on a déjà presque fait une photographie d'aujourd'hui. C'est autour donc de ce moteur que l'automobile allemande émerge. Entre nous, je pense que les Allemands ont eu beaucoup de mal à trouver, en fin de compte, un engin sur lequel mettre ce moteur, le moteur qui est remarquable, moteur léger, moteur assez puissant. Beaucoup de mal parce que c'est vrai que Daimler a hésité entre deux roues, trois roues, un bateau, il ne savait pas. Mais ce qui est important, c'est cette idée-là. C'est que l'automobile vient en Allemagne par Daimler autour de quoi ? Autour d'une culture de moteur, autour d'une vision de la motorisation de l'automobile. Par contre, la vision française est différente. Les Français, est-ce qu'on ne le voit pas déjà aujourd'hui, encore aujourd'hui, les Français n'ont pas une vision du moteur. Pour eux, la voiture, il y a un bon moteur, c'est le moteur Daimler. Je ne vous cache pas que les premières Panhard et les premières Peugeot vont utiliser, devinez quel moteur ? Le Daimler. Rassurez-vous, ils vont le copier, ils vont détourner les brevets, ils vont faire leur propre moteur. Mais il n'empêche que les Français partent d'une autre logique. La logique de Panhard et Levasseur, je vous la montre par cette image qui, je pense, résume à mes yeux parfaitement le regard de Panhard et Levasseur sur l'automobile. Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? C'est quelque chose qui a un châssis. Le châssis, c'est le dessous de la voiture sur lequel on met une carrosserie. Vous voyez, donc, il y a un châssis. Est-ce que ma souris... Oui, c'est ce que l'on voit en noir ici. Il y a un châssis extrêmement costaud. Et vous l'avez compris, ce véhicule, il a l'air de quoi ? Il a l'air d'une camionnette. Il a l'air, en fin de compte, d'un utilitaire. Eh bien, écoutez, tout est dit. C'est que Panhard, en fin de compte, a une approche de l'automobile qui est une approche du châssis. Vous comprenez bien que je l'oppose à la vision allemande du moteur. C'est un châssis, mais un châssis très particulier. C'est un châssis que l'on peut charger. Autrement dit, Panhard apporte quoi ? Panhard apporte tout de suite la logique du véhicule utilitaire. Pourquoi est-ce que Panhard vient à ce châssis costaud ? C'est dans sa culture. Autant Mercedes est une entreprise qui travaille depuis très longtemps sur les moteurs à explosion, autant Panhard est une entreprise qui depuis toujours fait des machines à bois. La machine à bois a poussé Panhard à faire des espèces de madriers en bois assez costauds, recouverts d'une tôle d'acier qui permet en fin de compte d'avoir à la fois la rigidité d'une poutre métallique, mais surtout pas son poids. Et donc c'est ce bois qu'on appelle le bois armé qui permet d'avoir des châssis hyper costauds, relativement légers. Voilà comment, en fin de compte, Panhard passe à l'automobile autour, je précise bien, d'un châssis. Allemand, moteur, Panhard, châssis. Deux regards différents. Et enfin, troisième regard différent, c'est Peugeot. Peugeot qui, la même année, en 90, même si mes images ne sont pas de la même année parce que les banques de photographie des constructeurs ne sont pas suffisamment riches, qu'est-ce qu'une Peugeot ? Eh bien, peut-être que le dessin de l'ingénieur est plus clair. Une Peugeot, vous le voyez, je n'ai pas de châssis très solide. Je n'ai pas l'énorme châssis prêt à supporter une charge utile considérable. Pourquoi ? parce que Peugeot part de tout à fait autre chose. Peugeot, vous le connaissez déjà, parce que avant l'automobile, Peugeot fabrique quelque chose. Il fait des cycles, il a fait des scies, il a fait des outils, mais il fait des cycles. Et Peugeot est parti tout simplement de la bicyclette, est parti du tube. C'est un spécialiste du tube, et dans ces conditions, eh bien, l'intelligence de l'ingénieur va être de rassembler deux bicyclettes, de les mettre côte à côte, de mettre évidemment des tubes au milieu, et de faire un châssis tubulaire, extrêmement léger, extrêmement rigide, et dessus, on y met un moteur. Quel moteur ? Celui qui est en vente, celui de Daimler. Et en quoi Peugeot est-il différent de Panhard ? Eh bien, Panhard, j'espère avoir été clair, il apporte le véhicule utilitaire. Peugeot, qu'est-ce qu'il apporte, lui ? Peugeot apporte le châssis tubulaire rigide. J'ai envie de dire, c'est déjà l'ancêtre de la voiture particulière, plus que ça, de la voiture de sport. C'est-à-dire, voiture de sport, voiture qui tient la route, et dans la culture de Peugeot, la tenue de route, c'est le fondamental de l'entreprise. L'utilitaire, c'est le fondamental de la culture de Panhard. Le moteur, c'est le fond de la culture des Allemands et de Daimler. Et d'un seul coup, vous voyez combien le monde d'aujourd'hui s'éclaire. C'est qu'aujourd'hui, plus d'un siècle après, bon sang, comme les Allemands ont toujours cette vision du gros moteur, du bon moteur, combien les Français, c'est quoi ? C'est le toucher de route, c'est en fin de compte la tenue de route, qui s'expliquera ensuite par autre chose. L'Allemagne aura des routes rapides, des autoroutes, très tôt, le Troisième Reich, malheureusement. Les Français auront au contraire des routes départementales ou nationales de piètre qualité, mais c'est un avantage. Pourquoi ? Parce qu'il faudra des voitures qui tiennent la route. Et donc, voilà comment la culture, en fin de compte, automobile, s'adapte aussi à un terrain. Cette automobile, elle est née pourquoi ? Elle est née évidemment pour transporter. Transporter, on l'a vu, des objets ou des personnes, bien sûr. Mais très vite, vous savez que le propre de l'homme et de son intelligence, c'est de détourner et de se servir de la voiture autrement. Est-ce que l'automobile est un plaisir ? Eh bien oui, dès le départ. C'est un plaisir et la photographie de la belle époque est délicieuse parce qu'elle nous montre des clichés comme celui-ci, merveilleux, qui montrent que l'automobile, peut-être la vitesse ou tout au moins la maniabilité, eh bien, ça séduit certainement l'homme, c'est bien sûr l'homme qui est au volant, mais attendez, mesdames sont aussi bien présentes, ou bien dans la voiture, ou bien comme spectatrices. Oui, l'automobile et la course automobile sont un élément aussi important que le transport. Alors, une automobile qui arrive, qui naît, eh bien, les Français, très vite, vont en fin de compte développer plusieurs marques, et vous avez ici côte à côte l'une des premières Peugeot et la première Renault. Vous voyez que les tailles ne sont pas différentes. Et la première Renault qui apparaît en gros en 1898, elle apparaît le jour de Noël 98, c'est vraiment à la fin de l'année. Cette Renault, elle est intéressante parce qu'elle montre en fin de compte tout ce qui peut être le cheminement d'une marque pour émerger. Qu'est-ce qu'il faut pour émerger en fin de compte ? Je pense que Renault en donne une très bonne idée. Alors, Renault, je le rappelle, ce sont des frères Renault qui, à Boulogne-Billancourt, lancent une entreprise et vont aller vers une activité, celle de l'automobile, qui est déjà florissante, j'en parlerai dans une seconde. Qu'est-ce qui fait que Renault, presque 10 ans après Peugeot, 10 ans après Panhard et Daimler, qu'est-ce qui fait que Renault émerge ? Eh bien, la stratégie de Renault, je pense que la stratégie de toute marque qui veut percer en automobile, c'est d'abord, première chose, il faut innover. Et vous n'imaginez pas combien l'automobile est un lieu d'innovation. Alors, j'ai dit que les Allemands étaient motoristes, mais les Français vont le devenir, même s'ils sont un peu en retrait. Là, vous avez quoi ? Vous avez l'image de la première boîte de vitesse. Les automobiles, pendant très longtemps, jusqu'à Renault qui invente cette boîte de vitesse, jusqu'à Renault, les voitures ont comme transmission une chaîne de bicyclettes. C'est pas très pratique. Renault apporte quoi donc ? Apporte ce qu'on appelle à l'époque la prise directe, qui est en fin de compte ce qui ressemble à une boîte de vitesse, et donc une transmission. Et ce brevet est tellement important que toutes les marques de France et d'Europe vont acheter le brevet Renault, qui va financer Renault pour aller plus loin. Donc vous voyez que l'innovation est au cœur de l'automobile. J'ai presque envie de vous dire une chose tout de suite. Je pense que tous les grands brevets sont déposés avant la Première Guerre mondiale. Quand je dis tous les brevets, Oui, je pense au frein à disque. Oui, je pense à la monocoque. Oui, je pense aux éléments de suspension les plus modernes d'aujourd'hui. Tout est déposé. Rien ne marche, mais tout est déposé. Autrement dit, il y a un énorme élan d'innovation qui est fait par tous les constructeurs automobiles, et notamment français. Première chose, il faut innover. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Mais deuxièmement, n'imaginons pas qu'une automobile au début du siècle soit quelque chose qui n'est pas achevé, n'est pas fini. Le deuxième élément important, une voiture doit être belle. Vous allez me dire que celle que je vous montre sous vos yeux, elle n'est peut-être pas très belle. Si, si, je vous assure, elle est bien finie. Elle est bien finie. Regardez l'arrière de la voiture, combien, en fin de compte, on a l'impression qu'on sort d'un atelier d'ameublement. On a quasiment fait une banquette arrière qui est ajourée comme un canapé dans un salon. Je vous assure qu'on est en train déjà de peaufiner. Il n'y a pas de grosses taches d'huile, il n'y a pas des morceaux de ferraille qui sortent. La voiture est finie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a déjà compris que pour plaire, il faut avoir une voiture aboutie. Nous sommes dans la séduction, ça veut dire que l'automobile n'est pas un objet que l'on va acheter rationnellement. Il faut séduire, pourquoi? Pour aller vers des clients qui sont évidemment rares, j'y reviens plus tard. Quand vous avez une voiture innovante, quand vous avez une voiture qui est jolie, eh bien le troisième élément d'une stratégie, et c'est ce que font les Français, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convaincre, et je reviens sur le béaba de la voiture, c'est la course. Il faut convaincre, c'est-à-dire, écoutez, la meilleure publicité pour montrer que votre voiture innovante, elle peut aller loin, pas simplement vite, loin, c'est quoi? C'est la mettre, non pas sur la piste, il n'y a pas de piste automobile. On fait des courses sur les routes nationales, on fait un Paris-Bordeaux, puis plus tard un Paris-Marseille, puis un Paris-Vienne, à toute allure, le chrono est parti, on a 3 jours pour arriver à bon port. Ce sont ces courses automobiles qui font incontestablement la renommée, et là-dessus, on s'aperçoit que la presse relaye ces courses automobiles avec beaucoup d'enthousiasme, et quand je parle d'enthousiasme, ben regardez bien, ça c'est pas prévu dans les stratégies, on pensait simplement innover, séduire, convaincre, et on s'aperçoit que oui, quand une voiture de course s'arrête près d'un village, que se passe-t-il? Eh bien, toute la population, en fin de compte, arrive. Elle débarque. Ne me dites pas, c'est les futurs clients. Je veux bien, mais dans 50 ans, ceux qui viennent là, ce sont simplement des gens qui sont attirés par... Ben, écoutez, la voiture, qu'est-ce que c'est? C'est un élément de la nouveauté. C'est un élément de la modernité. C'est cet engin qui colle tellement bien au XXe siècle parce que c'est l'engin de la vitesse. Notre siècle, le 20e, pardon, était le siècle de la vitesse. Eh bien, cet engin est quelque chose qui bouscule tout. On va vite, on va loin. Les hommes qui la pilotent sont des hommes hors normes, semble-t-il, habillés curieusement. Ils ont des engins qui dégagent des odeurs que la presse, la lecture de la presse est étonnante. On voit des gens qui disent « j'aime venir sentir les vapeurs d'une voiture de course ». Huile chaude mélangée à l'essence. Il y a un engouement pour l'automobile. Cet engouement fait que des entreprises réussissent. Voilà, Renault, parti 10 ans après les autres, eh bien, Renault réussit, Renault est une grande entreprise. Et si je vous montre donc ses débuts autour d'innovation, autour de deux conceptions, c'est bien sûr pour aller à l'idée forte, c'est que l'automobile, elle explose au sens, elle se répand à la... veille de la Première Guerre mondiale, vous avez en gros, en 1900, vous avez en France, je ne parle que de la France, vous avez 100 constructeurs automobiles, je dis bien 100, en 1914, vous avez 150 constructeurs automobiles. C'est considérable, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui parce que les start-up qui, en fin de compte, démarrent et réussissent eh bien, à prospérer. Comment ça se fait? Est-ce qu'ils vendent comme ça 5000 voitures? Pas du tout. Ils vendent 15, 10 voitures par an. Mais ça suffit, parce que chaque voiture est vendue, nous allons voir dans une seconde, à un prix astronomique qui permet, en fin de compte, avec très peu de voitures, de faire vivre une entreprise sans souci. Il n'empêche que l'automobile devient une activité, donc juste au tout début du XXe siècle, une activité extrêmement forte en France. J'ai envie de dire, c'est parti. Pourquoi? Eh bien parce que pendant tout le XXe siècle, l'automobile va être la première activité industrielle française. Donc, logique de voir un démarrage aussi rapide. Alors, il faut s'étendre sur un point, c'est le produit de luxe, parce que ça, c'est une notion bien française, tout au moins au début de l'automobile. C'est une voiture, un produit de luxe, Pour le comprendre, écoutez, une petite échelle de valeur, trois engins, une automobile, un cheval, un vélo, des francs de 1900, où se situe notre automobile? Ben écoutez, vous le voyez, entre le prix d'un vélo, d'un cheval et d'une automobile, j'ai pris la voiture la moins chère, la moins chère. Vous voyez que une bicyclette, c'est donc 6 mois de salaire d'un ouvrier, en plus d'un homme. Vous voyez qu'une automobile, vous l'avez compris, elle est inaccessible, ou tout au moins à la population. Qui peut s'offrir une automobile? Ce sont bien sûr la bourgeoisie très aisée, c'est-à-dire ce sont des armateurs, ce sont des ingénieurs. Je crois que c'est, à l'époque, c'est même pas le médecin. Il ne peut pas encore, attendons un tout petit peu, mais pour vous dire que c'est vraiment une élite qui peut s'offrir une automobile. Alors, la clientèle, aussi bien en France, voilà les publicités de cette automobile réservée à une élite en France, mais également à l'étranger, une publicité qu'on ne peut pas montrer aujourd'hui, vous la comprenez bien, elle n'est pas forcément très dans l'air du temps aujourd'hui, mais elle nous montre quand même ce qu'était l'automobile vue de l'étranger. Cette automobile, regardons-la évoluer en quelques temps. Voilà, 1905, vous avez vu par rapport à la première tout à l'heure, en l'espace de, on va dire, de 10 ans, l'automobile est devenue un objet incroyablement grand, peut-être un peu lourd. Et surtout, je pense que cette image montre la volonté des constructeurs de servir, d'aller vers quoi? Eh bien, d'aller avant tout vers l'utilisateur. Mais attention, l'utilisateur de l'automobile, ce n'est pas le conducteur. L'utilisateur de l'automobile, au début de l'automobile, il est derrière. Il est derrière, il a un employé. Pour conduire la voiture, c'est ce que nous appelons en français le chauffeur. Le chauffeur dont la racine du mot est intéressante. Qu'est-ce qu'un chauffeur? C'est celui qui va mettre la voiture en route le matin, lui faire monter la température pour que la voiture soit suffisamment chaude pour qu'elle puisse rouler. Le chauffeur, c'est lui. En fin de compte, c'est le jardinier qui s'est vu d'un seul coup, il a eu une tâche de plus, il avait le jardin, et maintenant il va avoir en plus l'automobile, et il est chauffeur mécanicien parce qu'il doit s'occuper du remplacement des petites pièces qui cassent régulièrement sur une voiture. Alors, cette voiture, elle montre quoi? Eh bien, elle montre qu'on se polarise sur quoi? Sur l'arrière. C'est l'arrière de la voiture qui intéresse, c'est on veut faire plaisir à qui? Eh bien, faire plaisir évidemment à celui qui l'a acheté, le propriétaire. Et il va vous dire qu'il a un peu froid, et donc bien vite, on va essayer de fermer l'automobile, et avec des techniques qui sont proches de celles de la calèche, on va fermer l'automobile pour faire une espèce de carrosserie. Vous avez vu que le conducteur, on s'en moque, c'est pas très important, il aura froid, peu importe, c'est un employé, donc c'est pas très important. Et puis, quand même, à la veille de la guerre de 1914, on va arriver vers une logique où l'automobile est entièrement carrossée, elle est beaucoup plus proche de celle d'aujourd'hui, ça y est, l'automobile prend des formes actuelles. Est-ce qu'elle est pour autant proche de celle d'aujourd'hui? Juste trois images. L'automobile, c'est un lieu de luxe. Je dis bien un lieu de luxe. C'est-à-dire, si vous rentrez dans une automobile du début du siècle, 1904, ici, regardez, la Méridienne semble sortie d'un salon. J'ai quelques évolutions l'intérieur d'une voiture. On passe là au sofa d'une Panhard en 1910. Attendez, le salon d'une Peugeot en 1913 et évidemment une Hispano. Regardez, c'est véritablement l'intérieur d'une maison qui est reproduit dans une automobile. Vous l'avez compris, cette voiture, elle est hors de prix. Et plus ça va, elle est hors de prix, mais plus les Français sont à l'aise dans cette voiture hors de prix. Qu'est-ce qu'ils vendent en fin de compte? Ils vendent bien sûr une voiture, mais ils vendent un produit de luxe. Et on achète une voiture, alors en France, le marché n'est pas français, le marché est étranger. Où est-ce que toutes ces marques françaises, Peugeot, Panhard, Hispano, déjà, Renault, où est-ce qu'ils vendent leurs voitures? Dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'on achète dans le monde entier? Peut-être une Renault, oui, une Peugeot, mais on achète quoi? Du fait en France, du mode de Paris. Et c'est ça, en fin de compte, le créneau de la voiture française. C'est que jusqu'à la guerre de 1914-1918, la voiture française, c'est le modèle de luxe par essence même. Et l'automobile française est totalement dans la logique d'un produit d'exception. Il n'y a pas deux voitures pareilles. Chaque client vient choisir sa voiture. Il choisit évidemment sa longueur, sa taille, son moteur, un 2, un 4, un 6, un 8 cylindres, ce qu'il veut. Il choisit tout l'intérieur. C'est lui qui veut, en fin de compte, le tissu, l'étoffe, le cuir, la boiserie. C'est une voiture unique. Voilà pourquoi elle est donc extrêmement chère. Alors, celui qui l'a fait, c'est intéressant de voir ça, parce que nous allons voir tout à l'heure, évidemment, d'autres images. Celui qui l'a fait, ben le voilà. Là, évidemment, on est dans un atelier de mécanique, mais vous voyez que nous sommes là, très loin de la chaîne de montage. On est très, très loin de ce que l'on imagine quand on pense à automobile, on pense à Fordisme, on pense à ligne de montage. Stop. Là, nous sommes dans une logique de travaux manuels où l'employé qui fait cette voiture, c'est un artiste. Au niveau mécanique, au niveau menuiserie, au niveau du travail des cuirs, nous avons des orfèvres. Et voici une photo rare, la photo d'un atelier d'automobile au début du siècle. Et dans cette jolie pagaille, pour nous, évidemment, avec nos yeux de 2015, une jolie pagaille qui est en fin de compte bien organisée, même si elle est pour nous inorganisée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas productive. Qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit surtout que sur la gauche de l'image, vous avez la fenêtre. Et sur la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'établi. Et c'est sur l'établi que l'ouvrier vient adapter sa pièce pour la mettre dans la voiture qui est derrière lui, à la droite de la photographie, où vous avez le stock de voitures où l'on va adapter, monter la pièce que l'on doit poser. Évidemment, chacune des voitures que vous avez en stock derrière vous, chacune est différente, parce que chacune s'adresse à un client particulier. Voilà ce que l'on pourrait appeler l'organisation industrielle du début de l'automobile. Cette jolie pagaille française, il faut bien comprendre le contexte. C'est logique de voir, en fin de compte, une automobile ainsi organisée. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans une logique manuelle. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que les Français ne vont pas voir ailleurs l'automobile américaine dont je parle dans une seconde ? Écoutez, parce que leur affaire marche très bien. Parce que jusqu'à la guerre de 1914, les industriels français, les fabricants français, 100, 150, si ça ne marchait pas, ils auraient plié boutique. C'est que ça marche très bien. Pourquoi aller en fin de compte faire une production à l'américaine alors que la production à la française marche très bien ? Tout simplement, quand on regarde, quand on compare, et c'est la chance de l'historien, s'il compare en fin de compte les résultats financiers d'un monsieur Renault en 1910 et d'un monsieur Ford en 1910, je remonte un petit peu, 1908, je m'aperçois que monsieur Renault gagne plus d'argent que monsieur Ford en 1908. Avec deux stratégies différentes. Comme quoi, la stratégie française, elle n'est pas mauvaise. Elle est adaptée à un marché spécifique qui est évidemment celui d'un marché évidemment petit, mais un marché de luxe, voire de très grand luxe. Alors, vous l'aurez compris, il faut se pencher bien sûr sur les deux mondes automobiles, puisque à côté du monde français, il y a un autre monde qu'il faut aller regarder. Pourquoi ? Parce que bien sûr, les Français vont se poser des questions. L'autre monde automobile, c'est le monde américain. Le monde américain, alors c'est très différent, c'est une voiture extrêmement simple, elle n'est pas luxueuse, même si cette photographie fait croire que c'est une belle voiture, pas du tout. C'est une voiture ultra rustique, c'est la Ford T, c'est une voiture vraiment très lambda. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est très simple, il n'y a rien. Pourquoi ? Pour qu'elle ne soit pas chère. Elle n'est pas chère parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, parce qu'il n'y a aucun luxe, aucun superflu. Vous avez quoi ? Vous avez quatre roues, un moteur et même pas une carrosserie, hein. Vous avez uniquement une toile. Mais je pense que l'élément fondamental de Ford, c'est bien sûr quoi ? C'est bien sûr cette chaîne de montage. Alors, je vous montre cette image parce que elle permet quand même de relativiser un petit peu le montage à l'américaine. Vous voyez quand même que c'est un peu simple quand même au départ. C'est-à-dire, vous voyez que la carrosserie arrive de ce toboggan et vient se jeter, en fin de compte, sur un châssis qui est en dessous. Mais ça montre bien ce côté rudimentaire, montre bien le début de l'automobile. Peut-être une autre image qui montre ce que l'on pourrait imaginer comme la première chaîne de montage de Ford, très moderne. Là, on a l'impression, ça y est, on a déjà l'ouvrier où devant lui passe l'automobile, on voit qu'on est en peinture et qu'est-ce qui passe devant l'ouvrier ? La caisse qui va être peinte par un opérateur. On est donc passé, souvenez-vous l'image de tout à l'heure, où l'ouvrier est en train de faire sa pièce, là c'est bien la pièce qui passe devant l'opérateur. Soyons observateurs, regardons quand même que même Ford, il a des progrès à faire. On est dans le processus de peinture. On peint la voiture. Mais regardez bien, on la peint d'abord avec quoi ? Avec de jolis pinceaux. Donc c'est quand même, me semble-t-il, un peu rudimentaire. Et puis, regardez bien, vous peignez une voiture alors que les cuirs, le siège, est déjà installé. Donc on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on ne déborde pas un peu ? Est-ce que la voiture est de très bonne qualité ? Vous avez compris, la chaîne de montage, c'est évidemment pour en faire le plus possible. Les Français ne regardent pas la chaîne de montage. Si, ils sont allés la voir. Et puis, ils se sont rendus compte que ce n'était pas tellement ce qui les intéressait, parce que, j'espère avoir été clair, ils avaient leur propre regard qui se comprenait très bien. La césure vient d'où ? La césure vient de quand ? D'un événement qui n'a rien à voir avec l'automobile. Cet événement, c'est la Grande Guerre, la guerre de 1914-1918, qui change toute la logique industrielle en France et en Europe. La Grande Guerre, bien sûr, on arrête l'automobile. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus besoin de voiture, surtout pour un état-major qui est persuadé que le cheval est encore meilleur que le cheval vapeur. Mais surtout, les usines sont, je dirais, réquisitionnées, le mot n'est pas tout à fait juste, vont être utilisées pour faire de l'armement. Et ces usines, bien voilà une usine de guerre. Et pour la première fois, avec l'usine de guerre, eh bien on s'aperçoit que les industriels français vont arrêter de faire de la qualité, c'est-à-dire l'objet unique, bien fait, bien fignolé, et ils passent, avec la Grande Guerre, ils passent à l'objet fait en quantité. C'est le grand basculement. Ça veut dire que c'est là où la France rentre dans cette logique industrielle de la grande série. Et donc, la grande série va venir en France, non pas avec l'automobile, mais elle vient avec l'armement. Et de 1915, pas en 14, de 1915 à 1918, eh bien, on va voir en France, et vous avez ici un atelier français, qui s'est converti aux productions, je dirais, très fordiennes. D'ailleurs, l'industriel qui fait cette usine est un industriel qui a été attiré par Ford, qui est allé voir comment faisait une Ford, et qui a mis les mêmes techniques au service de l'armement. Eh bien, le basculement est là. C'est tout simplement l'idée d'apprendre le modèle américain. Alors, le modèle américain, il faut en parler une seconde. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, les ingénieurs français qui ont été façonnés par le modèle français qui était celui de la voiture de luxe, eh bien, ils ne connaissent pas bien le modèle américain. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller voir le modèle américain. Le modèle américain, je vais le résumer en cette image simplement, c'est Henry Ford qui fait quoi ? Qui fait un modèle unique. Vous savez tous comme moi que la Ford T, eh bien, on peut l'acheter sans demander la moindre option. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'option. C'est-à-dire que la Ford T, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. La Ford T, elle est telle qu'elle et vous la prenez ainsi. La Ford T, c'est un modèle dont le prix diminue d'une année sur l'autre. Lorsque les Français vont aux États-Unis, ils vont évidemment voir les usines Ford. Et pour avoir eu la chance de regarder les rapports faits par les ingénieurs français qui reviennent des États-Unis, les rapports sont épais comme ça. Ils ont tout écrit, photographié, mesuré. Pourquoi ? Pour quand ils vont rentrer en France, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, ils vont dire à leur patron, voilà, si on passe au Fordisme, il faut acheter tout ça. Le problème, c'est quand vous envoyez un ingénieur aux États-Unis, vous ne lui dites pas d'aller voir Ford et ensuite de revenir. Vous lui dites, vous allez aux États-Unis, vous regardez le modèle américain, vous vous imprégnez de toutes les idées, toutes les bonnes idées, vous les mettez dans votre dossier et vous rentrez. Or, quand les ingénieurs français rentrent des États-Unis, ils sont allés voir le modèle américain et ils arrivent en disant, stop, il n'y a pas un modèle, il y a deux modèles. Et le deuxième modèle, c'est la General Motors, qui en fin de compte travaille absolument pas comme Ford, c'est pas un modèle unique, c'est pas une seule voiture, la Ford T. La General Motors, c'est quoi ? Eh bien, ce sont cinq marques automobiles autour d'une marque, donc d'un ensemble qui est General Motors. C'est Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick et Cadillac. Et chose intéressante, c'est que l'homme qui réfléchit à la stratégie de General Motors, qui s'appelle Alfred Sloan, on parlera de Sloanisme, comme on parle de Fordisme. Le Sloanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est au contraire du Fordisme, c'est un seul modèle, vous la prenez, vous ne la prenez pas, c'est pour équiper les ménages. Le Sloanisme, au contraire, on se rend compte que dans une société, vous avez des gens qui ne sont pas au même niveau social, et donc, vous devez leur proposer une offre qui corresponde à ce qu'ils sont dans la société. Vous êtes plus ou moins riche, vous êtes plus ou moins regardez les mots de l'époque. La voiture des masses, c'est pour celui qui n'a pas trop l'argent. Les pauvres, mais fiers, ce sont très jolis. Les bourgeois discrets, les battants, les riches, il faut une voiture différente. Et donc, là, vous avez l'un contre l'autre, l'une contre l'autre, deux stratégies. Mais qui a raison? Et lorsque les ingénieurs français rentrent en France, ils vont dire à leur patron, ben non, il n'y a pas un modèle américain, il y a des modèles américains. Et donc, la leçon est extrêmement riche. Et c'est vrai qu'en France, eh bien, va se poser une question. Un, est-ce qu'on passe au modèle américain? Et si on y passe, deux, quel modèle on prend? On prend Ford ou on prend GM? Alors, question, est-ce qu'on passe au modèle américain? Mais je ne vous cache pas que sur les 150 marques automobiles en 1914, bon, il y en a quelques-unes qui trépassent avec la Grande Guerre, la question pour la majorité, c'est on continue. Ça veut dire que le système marchait parfaitement bien en 1914, il n'y a aucune raison d'arrêter. On avait un petit bonheur, une réussite financière sur la voiture de luxe, on continue. Et vous en avez, ben, tous continuent, sauf ben, les deux plus gros vont passer à la grande série. Les plus gros, c'est bien sûr Peugeot et Renault sont les deux seuls qui vont aller vers la grande série. Les autres, tous, même Panhard, c'est là que Panhard va perdre pied, va continuer à aller vers ce qu'il sait faire. Sauf que, et l'histoire serait trop simple, c'est que le temps que Peugeot, Renault fassent le saut, parce qu'il faut bien comprendre que c'est toutes les usines à réorganiser, le temps qu'il fasse le saut, eh bien voilà qu'un inconnu se lance dans l'automobile de série, c'est André Citroën. Il n'a jamais fait de voiture. Il a fait des obus en grande série, c'était lui tout à l'heure, l'usine d'obus, c'était lui. Et ben, écoutez, André Citroën, qui n'est pas du tout un homme de voiture, c'est un passionné d'organisation, c'est un polytechnicien absolument qui s'épanouit dans l'organisation industrielle. Son rêve, c'est quoi? Avoir une usine à l'américaine. Vous lui demandez Ford ou GM? Il vous dira Ford. Pas trop sûr. Il n'empêche, regardez bien, la première usine à la chaîne en France, vous l'avez sous les yeux, qu'est-ce que c'est? C'est l'usine Citroën, installée à Paris, dans le 15e arrondissement, au quai de Javel. C'est une usine, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en France. Autrement dit, oui, la grande série vient d'entrer en France. Et là, c'est la catastrophe pour évidemment les constructeurs Peugeot et Renault qui se rendent compte qu'ils viennent d'être doublés par un petit jeune, ils ont le même âge, mais peu importe, un petit jeune dans la profession, qui vient en fin de compte de proposer quelque chose qui va faire quoi? Mais il est tout seul sur le marché avec une voiture pas chère, les autres sont encore avec les voitures chères de luxe, ils se rendent compte qu'il va falloir suivre pour ne pas être délogés de leur piédestal. Et donc, la bataille s'engage en France autour de quoi? D'une idée américaine. La grande série. Alors, Citroën est-il uniquement un copieur? Non, Citroën est... Oui, c'est un il aime le système américain, mais il va aller plus loin. Citroën apporte, en 1924, il va apporter quelque chose que les Américains n'ont pas osé faire. C'est la carrosserie métallique. Et donc, la carrosserie métallique va être une première française. En quoi la carrosserie métallique est-elle une révolution? Je me permets deux petits croquis, deux petits dessins, deux petites photos pour comprendre ce que c'est une automobile. Rassurez-vous, tout le monde n'est pas technicien, et moi non plus. Une voiture, c'est quoi? Une voiture, c'est en dessous, le dessous d'une voiture. C'était autrefois, nous sommes dans l'histoire, hein, c'était autrefois ce dessous, c'est donc le châssis. Voilà le châssis, nous sommes bien sûr vus du dessus, hein, on est complètement au-dessus, et vous voyez que les parties que vous avez de chaque côté, là, les longerons du châssis, c'est du métal costaud, rigide. Sur ces longerons, vous avez quoi? Ben, vous avez un moteur, une boîte de vitesse, une transmission, et ici un pont arrière. Toutes les voitures, hein, quelles que soient les marques, toutes sont faites pareil. Sur ce châssis métallique, ça pèse combien ça? 150 kg. Sur ce châssis métallique, plus le moteur, vous avez quoi? Vous mettez sur ce châssis métallique, j'insiste bien là-dessus, vous mettez une carrosserie en bois. L'automobile, même américaine, marche comme ça, du bois. Et vous recouvrez la structure de bois avec des feuilles de tôle, et vous imaginez, quand vous allez taper dessus, vous imaginez que la voiture est en tôle. Elle n'est pas du tout en tôle. Si vous avez un accrochage chez le carrossier, ben le carrossier il est plutôt ébéniste pour vous réparer la voiture. Le grand problème industriel, c'est quand vous travaillez en même temps du métal, le châssis, et du bois la carrosserie, c'est ingérable. Pourquoi ? Parce que une carrosserie en tôle, vous achetez de la tôle et 3 jours après, vous avez une carrosserie. Le problème du bois, c'est que quand vous l'achetez, il faut qu'il sèche. Combien de temps ? Écoutez, j'étais sidéré de lire ça dans les archives. Il faut entre 3 et 5 ans pour faire sécher le bois nécessaire. Or, le problème, c'est qu'au départ, vous vous lancez dans la grande série, vous allez faire, mettons, l'objectif, c'est 50 voitures par jour, mais si 5 ans après, vous êtes à 250 voitures par jour, ce que vous avez acheté il y a 3 ou 5 ans en bois, vous comprenez bien que vous n'avez plus assez. Donc, Citroën, pourquoi passe-t-il à la carrosserie tout acier ? Tout simplement parce qu'il a compris qu'il faut travailler le même matériau pour, je dirais, le dessous et le dessus. C'est une logique, tout simplement, de flux industriel. Et André Citroën va révolutionner l'automobile. Comment ? Tout simplement en apportant cette nouvelle méthode de fabrication qui est la voiture entièrement métallique. Qui suit ? Le monde entier. Même les Américains. Même les Américains vont suivre ce système, en fin de compte, et vont être obligés de quoi faire ? Eh bien, d'investir, évidemment, dans des usines. Alors, une image sur l'usine Citroën. Écoutez, en deux mots, voilà la première usine, celle qui faisait des obus. Et regardez bien, à force de faire du métallique, eh bien, il a fallu que Citroën ait, en fin de compte, une organisation industrielle incroyable. Elle est parisienne. Alors, on est très, très loin du modèle fordien. Ford, c'est quoi ? Ford, c'est une usine immense. Vous faites rentrer, vous avez tous lu Tintin et Milou, Tintin en Amérique, qui est pour moi la référence des références sur le fordisme. C'est, souvenez-vous, Tintin qui va dans les ateliers de je me trompe pas, ce sont les abattoirs de Chicago, où Tintin et Milou rentrent dans l'abattoir de Chicago. Qu'est-ce qu'ils voient ? Rentrer une vache. Qu'est-ce qui en sort ? La boîte de corned beef. Et l'image de l'usine américaine, c'est ça. C'est sous un unique toit, vous avez en fin de compte tout. Mais regardez, Citroën, il a atomisé son système de production. Pourquoi ? Parce qu'on est en France, parce que c'est petit, parce qu'il y a des ruelles partout, vous êtes en plein Paris, et donc c'est sûr que chaque pièce, quand vous les amenez à l'usine centrale qui est ici, chaque pièce, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chaque pièce, il faut l'emmener par des camions, par des voitures, par la Seine peut-être. Donc c'est compliqué. Donc oui, il est fordien, mais c'est pas facile d'être fordien dans un pays comme la France, et évidemment dans un pays comme l'Italie aussi, ou comme l'Allemagne, c'est pas facile. Alors, voilà Citroën. Et Citroën devient d'un seul coup celui qui va tirer tout le monde. Et il tire qui ? Il tire Renault. Voilà l'exemple de l'usine Renault. Un mot sur les usines Renault, dont je n'ai pas encore parlé. Nous sommes à Boulogne-Billancourt. Alors, ceux qui connaissent la région, je peux revenir sur la carte ici, parce que c'est peut-être plus parlant. Si vous suivez bien ma flèche, vous voyez, la Seine a été coupée. Là, la Seine revient. Mais voilà, la Seine est là. Et Boulogne, c'est ici. Donc Boulogne, c'est tout à côté de Quai de Javel. C'est vraiment, c'est en face. C'est sur deux communes, un c'est le 15e, l'autre c'est Boulogne, mais c'est en face. Que fait donc Renault ? Renault, voyant le démarrage fulgurant de Citroën, Renault y va. Problème de Renault, s'est installé dans la propriété familiale de Billancourt, qui est une banlieue Billancourt au départ. Billancourt, c'est une banlieue ultra chic, où vous n'avez que hôtel particulier à côté de hôtel particulier, je ne sais pas si vous imaginez. Et Louis Renault, le fiston qui n'a pas fait d'études, pas ingénieur, mais ingénieux, n'oubliez pas la boîte de vitesse quand même, il est dans le jardin de la propriété familiale, et dans le jardin, il fait sa voiture. Le papa lui laisse la maison, il achète le voisin, et il va faire une usine en plein quartier hyper bourgeois. La population est effrayée par un voisin pareil. Il y en a qui lâchent, qui abandonnent, qui vont ailleurs. Et hop, il prend les terrains. Et voilà comment, regardez bien, Louis Renault va acheter en fin de compte le quartier de Billancourt, qui va avoir une mutation incroyable, passer du quartier très bourgeois à un quartier ouvrier. Et sauf que ce quartier usinier a l'inconvénient d'avoir, mais regardez bien, c'est pas une usine ça quand même, c'est une mosaïque d'ateliers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rues, des ruelles, des passages partout, et que où voulez-vous mettre une ligne de montage ? Vous allez la faire sur une rue ? Vous allez acheter la rue ? Mais Louis Renault a compris qu'il faut faire autre chose. Alors voilà le terrain qu'il délimite. Tout ce qui est en deçà de la ligne rouge, c'est Boulogne et on ne peut pas y aller. Et donc, il décide de quoi faire. Il décide de prendre la partie en dessous, c'est-à-dire l'île dite l'île Seguin. Et là, vous avez tous compris quand même qu'on est dans un rêve absolument incroyable. Il n'y a qu'un Français pour tenter un tel rêve. Jamais dans l'histoire, vous ne verrez une telle réalité faire une usine sur une île. Pourquoi c'est une folie? Il me semble que dans la logique d'une usine, une usine où j'y mettais d'abord une superficie, un périmètre, et puis normalement, si les affaires se développent, qu'est-ce que vous faites? Elle doit s'agrandir, l'usine. Elle doit forcément grandir avec la production. Donc se mettre sur une île, c'est se condamner à quoi? Être figé. Sauf que Louis Renault a l'intention de monter. De monter, ça veut dire qu'il aura, en fin de compte, son usine de l'île Seguin, vous l'avez compris, là j'ai de quoi faire des lignes de montage, j'ai toute la longueur que je veux. Et il va simplement monter les étages pour avoir de quoi faire sa production en grande série. Tout le monde sait que ce n'est pas forcément très logique et très rationnel. Parce que Ford, dans ses ouvrages, l'explique de façon très imagée, et c'est toujours très, très limpide ce que dit Ford. Pas toujours très juste, mais c'est toujours très limpide. Il prend l'exemple d'une rivière, et il dit, regardez bien une rivière. Le propre de l'industrie, ça doit couler comme une rivière. Dès que vous avez un méandre, eh bien, la vitesse change. Exact. Dès que vous avez une cascade, vous avez certainement une accélération, mais en bas, vous n'avez pas une accélération. L'eau peut stagner, mais elle peut rester. Donc, en usine, c'est du stock. Donc, pas d'étage. Donc, là encore, est-il fordien, Louis Renault? Vous le comprenez bien que c'est compliqué. Entre nous, faire une usine sur une île, c'est... Il faut vraiment être poussé par l'envie de la grande série, d'être au niveau de cette mutation industrielle. Ça demande un travail qui... Je pense que le mot n'est pas galvaudé. Si je vous disais que c'est un travail pharaonique. C'est pharaonique. Il faut imaginer que cette île qui mesure plus d'un kilomètre de long, Louis Renault, pour la mettre au-dessus des crues de la Seine, va faire un remblai de parfois 10 mètres de hauteur. C'est colossal comme travail. Si je vous dis en plus comment il fait le remblai, votre âme écolo va être horrifiée, puisque Louis Renault remplit l'île Seguin avec ses déchets usiniers. Je peux vous dire que lorsque Renault a vendu ses terrains il y a une quinzaine d'années, ce qui a coûté le plus cher, ça a été la dépollution des terrains, tellement c'était épouvantablement contaminé, bien sûr. Alors, juste quelques images, parce que ça fait partie de l'histoire industrielle. Voilà l'usine qui est construite sur l'île Seguin. On voit ici la plateforme qui a été faite au-dessus du terrain, tout va être remblayé. Et peut-être une image de l'usine telle qu'elle arrive pour vous montrer le choc culturel, financier, pour passer à la grande série. Vous n'êtes plus dans l'atelier, comme tout à l'heure, on avait le petit atelier avec les ouvriers près de la fenêtre, vous vous souvenez? Regardez là, avec cet ouvrier, rassurons-nous, l'inspecteur du travail, il n'existe pas encore, ou tout au moins, on n'est pas à l'époque où on regarde ça de très près, les risques qui sont pris, mais c'est intéressant de voir les hommes qui sont partout, pourquoi? Ça nous montre l'échelle. L'échelle est incroyable, nous avons donc une usine qui est devenue gigantesque, et bien sûr, voilà l'usine Renault. Non, vous n'êtes pas chez Ford, vous êtes chez Renault. Ça veut dire que les usines Renault sont en train de rattraper leur retard, n'oubliez pas, poussé par Citroën qui est devant, Renault est en train de travailler, et pour aller vite, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps, Peugeot, petite usine, grande usine. Allez, tout à l'heure, vous vous souvenez l'image que nous avions de ces ouvriers près d'une vitre avec ces voitures en stock. Mais regardez bien, la même usine, la voici. On est passé à la grande série. C'est un changement de métier. Il faut bien voir que ce passage à la grande série, c'est un vrai changement de métier. Alors, et la voiture dans tout cela, qui était notre thème important? Est-ce que la voiture française a donc changé? Je pense que la voiture française, oui, elle a changé. Elle a changé, pourquoi? Parce qu'elle est faite en série, on l'a tous compris, parce qu'elle est faite en métal, on a compris l'importance de Citroën, mais je voudrais quand même vous montrer une petite chose, c'est pas le jeu des 1000 euros, mais quand on regarde ces trois voitures, j'ai mis les logos en dessous parce que j'avais peur de m'y perdre moi-même, car je vais vous dire la vérité, je ne les reconnais pas. Ça veut dire qu'entre une Peugeot, une Citroën et une Renault, je trouve qu'elles ont toutes, le même visage. Je peux vous les montrer un peu plus en vrai. Voilà une Renault qu'on appelle une Prima 4, donc faite en série, on est bien d'accord. Hein. Voilà une Peugeot, une 201, et regardez bien, une Citroën, une C4, on a repris le mot d'autrefois. Avouez quand même qu'il me semble que ces voitures se ressemblent. Quand vous dites aujourd'hui que toutes les voitures se ressemblent, excusez-moi, mais c'est rien à côté de 1900. Ça, on est en 29, toutes sont en 29, ces trois voitures sont quasiment identiques. Pourquoi? Et c'est ça l'intérêt. Tout simplement parce que ce qui vient de primer dans le monde de l'automobile, c'est plus l'ingénieur qui conçoit, c'est l'ingénieur qui fabrique. Ça veut dire que l'ingénieur roi, le maître de l'usine, c'est celui qui va faire l'ordonnancement en usine, celui qui va préparer l'outillage pour pouvoir faire le flux. Ces voitures, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Vous allez me dire, elles sont toutes moches, elles se ressemblent. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'elles sont d'abord simples. Elles sont simples, elles n'ont aucune difficulté, ou tout moins, le moins de difficultés possible pour permettre d'être fabriquées en grande série. Ça veut dire que la primauté industrielle fait que on a oublié ce qui faisait peut-être la spécificité française, qui était la voiture bien finie, la voiture bien peinte, la voiture avec une forme un peu spéciale. Hop, on est passé dans une uniformisation de l'automobile qui vient de quoi? Mais c'est le problème, en fin de compte, de la grande série. Et la grande série, les Français se sont mis à la grande série, mais on le voit bien, pendant ce temps-là, bien sûr, leurs produits se sont assez banalisés. Et je pense que dans les années 20, de la Grande Guerre à 1920, voire 1930, nous n'avons pas en France de voitures très... très différente. Je crois que la France a perdu un peu de sa spécificité, sinon peut-être les apports industriels faits par Citroën. Ces années 20 sont évidemment brusquement arrêtées par la crise dite des années 30, celle qu'on appelle celle de 1929, mais ne l'oubliez pas, la crise arrive en France en 1932. La crise, comment est-ce qu'on sort d'une crise? Pour vous dire la vérité, s'il y avait une leçon pour sortir de la crise, on le saurait et on l'apprendrait dans toutes les écoles de management. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les industriels français font pour sortir de la crise. Et je pense qu'il y a quelques leçons quand même qui sont assez intéressantes. La première, je ne voudrais peut-être pas rentrer dans des détails, mais je vais essayer d'aller très très vite. La première, parce qu'elle touche un petit peu à notre réflexion. Ford ou Sloan? Modèle unique ou au contraire segmentation? Peugeot, en 1929, avant la crise, faisait un modèle unique dans son usine à l'américaine, usine de Sochaux, faisait la 201. Peugeot se rend compte que la clientèle, oui, on trouve des clients pour la 201, mais les garages dans la France entière disent « on aimerait bien une voiture un peu plus grande ». Ok, Peugeot décide de rallonger à peine la 201, un petit moteur à peine plus gros, on garde les mêmes emboutis, et on fait quoi? Une 301. D'accord? Et là, les garages vont dire, mais vous savez, en temps de crise, on s'aperçoit qu'il y a toujours des gens riches qui veulent une voiture. OK. Ils veulent quoi? Ben, une grosse voiture. Une 601 avec un moteur 6 cylindres. On fait une voiture 600, une 601. Mais on se rend compte qu'une 601, c'est quand même peu de cadence. Donc, on va prendre la même voiture avec le moteur de la 301 et on fait une 401. Stop, je m'arrête là. Qu'est-ce que je viens de voir? Je n'ai pas une explosion de fabrication. Non, non, non. Vous avez tous compris que ça, c'est la même voiture. Les 201, 301, c'est la même. 401, 601, c'est la même. Il n'y a que le moteur qui change. Donc, on fait croire qu'il y a deux modèles différents, mais en fin de compte, c'est les mêmes modèles. Mais ça nous montre quoi? Tout simplement que l'on vient de segmenter. On vient de segmenter l'offre, et ce qui fait que Peugeot a quatre modèles à proposer à une clientèle selon son besoin, selon son envie, selon ses moyens. On va passer à la 201, 301, 401, 601. Ça nous rappelle ce que c'est qu'une numérotation Peugeot, c'est que le premier chiffre 201, c'est la taille de la voiture, et le petit 1 à la fin, qu'est-ce que c'est? C'est la génération. La première génération, c'est donc les 1, et la dernière génération, celle d'aujourd'hui, et le compteur s'est bloqué aujourd'hui, c'est la numéro 8, la 208 aujourd'hui. Donc, voilà une première réponse. Tiens, le Fordisme est donc, en fin de compte, quelque chose qui s'adapte plutôt à une prospérité, le slownisme, la segmentation, va plutôt dans la logique de crise. Je pense que là où Peugeot amène une deuxième réponse à la sortie de crise, c'est peut-être au niveau du style. Je dis bien du style, oui. Un homme est embauché, que vous ne connaissez pas, parce que c'est un homme qui n'a pas marqué l'histoire, alors que pourtant son talent le mériterait, c'est Henri Thomas. Henri Thomas est ce qu'on appellerait aujourd'hui un designer. Le mot, à l'époque, n'existe pas. On appelle ça un styliste. Et Henri Thomas, on le fait venir chez Peugeot. Pourquoi? Eh bien, on lui dit, vous allez dessiner des belles voitures. Et vous l'avez compris, ces voitures-là, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce qu'elles ressemblent trop au Citroën ou au Renault. Et donc, avec de faibles budgets, Thomas va être engagé à quoi faire? À faire le minimum de différence qui entraîne le maximum de plaisir pour le client. Il commence par quoi? D'abord par les peintures. la voiture sera plus noire. Pourquoi est-ce qu'on les peignait tous toutes en noir? Parce que le noir est facile à faire, et ne le répétez pas à votre garagiste, le noir est la peinture la moins chère. Le rouge est la plus chère. Le noir est la moins chère. Et on vous les vend au même prix, bien sûr. Donc, mettre de la couleur. Bon, regardez bien les phares. Les phares, c'est une extraordinaire question des stylistes. Où les mettre? Est-ce qu'il faut les mettre toujours comme autrefois, calandre et phare? Regardez bien ici, ils sont un peu plus hauts, ici un peu plus bas. Rien qu'avec le mouvement des phares, vous avez un autre regard de l'automobile. Vous avez tous remarqué la très grande différence entre toutes ces voitures. La très grande évolution, c'est quoi? Elle est ici. Regardez bien, là vous avez... Donc, la voiture normale, elle a un marchepied. Logique, pourquoi? Le châssis par-dessus la carrosserie. Et regardez bien celle-là, la petite verte, qu'est-ce qu'elle a? On a fait disparaître ce marchepied. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce n'est pas bon au niveau du style. Donc, il faut travailler la voiture pour supprimer ce côté un peu camion. Ce n'est pas fini. Thomas lance découpé, 1934, pour essayer de faire quoi? On retrouve là l'idée de faire de la série, mais avoir la caractéristique de ce qui était l'automobile d'autrefois, un peu chic, un peu... Faites à la demande, le client pourra avoir, grâce à une organisation de la peinture moderne, pourra avoir la voiture qu'il veut, et pourquoi pas oser. Et Peugeot, en 1934, ose quoi? Une révolution, c'est la voiture qui devient deux voitures, la voiture caméléon, la voiture qui est un coupé, qui devient un cabriolet, parce que le toit rentre dans le coffre. 1934, invention Peugeot, j'ai envie de dire, voilà quelque chose qui fait plaisir. C'est quoi? C'est pas ce que fait Peugeot. C'est de voir tout simplement que la sortie de crise passe par quoi? Par l'innovation. Et non pas par mettre le parapluie et attendre la fin de l'orage. Peugeot essaye, un, avec le slownisme, deux, avec le style, de faire du neuf et de tirer, en fin de compte, le marché à lui. Mais lorsque Peugeot lance ses nouveautés, voilà qu'apparaît au même moment, en 1934, une révolution automobile faite par Citroën, qui est, vous l'avez reconnu bien sûr, c'est la célébrissime traction avant. Cette traction, je voudrais m'y arrêter un petit peu, pourquoi? Parce que c'est, je pense, l'une des voitures les plus exceptionnelles de l'histoire, et c'est, d'un point de vue historique, c'est le retour de la voiture française. Pourquoi? Mais écoutez, on va le voir dans une petite seconde, je parle juste un peu de la traction avant. Elle est faite par Citroën. Elle est faite surtout par un ingénieur qui n'est pas Citroën, c'est ce jeune homme, André Lefebvre, qui a comme caractéristique d'abord, ce n'est pas un ingénieur classique de l'automobile. Vous savez, l'automobile, c'est beaucoup de gazards, quelques centraliens, une pincée de polytechniciens. Lui, il n'est rien de tout ça. Il est super-héros. C'est un ingénieur de l'aéronautique. Or, la grande idée de Lefebvre, c'est quoi? C'est qu'il va apporter le savoir-faire de l'aéronautique dans l'automobile. Et donc, son innovation, qui vous allez voir, elle est considérable, ça va être tout simplement un transfert de technologie qui va permettre de répondre à une question fondamentale en automobile, c'est l'abaissement du poids. Je dis bien l'abaissement du poids. La grande idée, si vous voulez faire une voiture moins chère, il y a une crise, il faut faire moins cher. Si vous voulez faire moins cher, il n'y a pas 25 solutions, il y en a une, c'est... Faites une voiture moins chère. Pour faire une voiture moins chère, tout ingénieur vous dira, il faut de l'alléger. Donc, Lefebvre, sa grande idée, et je vous montre son... Je vais peut-être vous montrer une photographie que je trouve... Pour moi, ça, c'est quasiment une sculpture. Ça, c'est une traction avant. C'est une carrosserie de traction avant. Mais là où cette voiture, pour moi, est exceptionnelle, c'est que cette voiture... Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai montré ces images exprès. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré un châssis sur lequel on rajoutait une carrosserie. Vous vous souvenez? Eh bien là, sous vos yeux, vous avez quoi? Et vous avez la révolution de André Lefebvre. Il n'y a plus de châssis et de carrosserie. Mais vous avez un ensemble qu'on appelle la monocoque, qui est à la fois châssis et à la fois carrosserie. Il vient de supprimer la partie du dessous, il vient de supprimer 150 kg. Il est parti de l'avion. Il a toujours dit, sur un avion, il y a une carlingue, elle est rigide, on n'a pas un châssis. Donc, allons-y sur l'automobile. Et il a donc fait cette voiture autour de l'idée lumineuse de l'aéronautique. Ceux qui aiment les avions ont tout de suite vu que ce dessin ici, ça, cette pièce-là, qui est pour porter le moteur, eh bien, ça ressemble étrangement à quoi ? À ce qu'il y a sous les ailes d'avion pour porter le moteur de l'avion. On voit les similitudes extrêmement importantes. La grande idée de Lefebvre, sa grande crainte, c'est la rigidité. Il a très peur qu'en ayant supprimé les châssis, qui étaient impossible à tordre, il a très peur d'avoir une carrosserie qui joue. Donc il va faire des renforts un peu partout. Si vous avez de bons yeux, vous avez remarqué ici que la partie arrière, elle ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas, pourquoi ? Parce qu'on a très très peur que si vous ouvrez un coffre, vous allez avoir une carrosserie pas assez rigide. Donc la première voiture, la première traction avant, si vous voulez mettre des bagages dans le coffre, eh bien vous enlevez la banquette qui n'a pas de charnière. Hein. Vous la jetez par terre, vous mettez vos sacs et vous la remettez en place. Ce n'est pas très pratique. Attendez, ça va évoluer. Cette voiture, et j'y reviens, vous l'avez compris, j'ai ici la monocoque, eh bien pour continuer à alléger la voiture, André Lefebvre va dire, on supprime également la transmission. Vous vous souvenez de ce que je voulais vous montrer tout à l'heure ? Vous voulez qu'on retrouve... voilà, je vous le remonte. Donc Lefebvre a supprimé cette partie-là, tout le châssis, il n'y en a plus. Il y a le moteur, bien sûr, toujours. Il essaie de supprimer la transmission et de supprimer le pont arrière. Pourquoi ? Mais il dit, mais c'est beaucoup trop lourd. Combien c'est ? 50 kilos. Et donc, en le supprimant, on va regarder une photo de dessous, en supprimant, eh bien, on s'aperçoit que le moteur est donc là. Mais le moteur, il ne va plus vers l'arrière, il va vers l'avant. Et puisque vous n'avez plus de transmission vers l'arrière, la logique, c'est quoi ? Eh bien, c'est de mettre les roues avant motrices. Et la Citroën traction avant, comme son nom l'indique, apporte quoi ? Apporte la traction avant. Mais là où j'aimerais être le plus clair possible, jamais Lefebvre est parti d'une idée, je vais faire une voiture qui tient la route fabuleusement bien. Il est parti d'une idée, je vais faire une voiture la plus légère possible, qui revienne complètement sur la logique du poids, donc du coût. Et c'est ainsi qu'il arrive à la traction avant. Comme quoi, j'ai envie de dire, pas vivre la crise, mais bon sang, combien une stratégie de sortie de crise peut être salutaire à une innovation technique. Et cette traction avant, c'est une voiture qui, vous l'avez compris, si je retire dessous un châssis qui fait 15 cm de haut, elle va être comment la voiture nouvelle ? Écoutez, regardez-la comparée à l'ancienne, elle est toute basse. Elle n'a plus ce fichu marchepied, elle est toute basse pourquoi ? Parce qu'on l'a rabaissée grâce au châssis en moins. Citroën dit, nous allons changer de vocabulaire français, on ne dira plus monter en voiture, mais descendre en voiture. Le terme est resté, monter en voiture toujours, encore qu'aujourd'hui avec les SUV, on a peut-être tendance à reparler peut-être de monter en voiture. Alors, est-ce que cette voiture est belle ? C'est-à-dire, j'espère que vous avez partagé cet extraordinaire élan technique. Peut-être une chose que j'ai oublié de vous dire, et c'est peut-être ça le... Trois entreprises américaines, pas les grandes, pas les Big Three, trois firmes américaines. Voyant la traction avant, passent l'Atlantique, viennent au Quai de Javel, demandent à acheter le brevet de fabrication de la traction. Ça veut dire que, jusqu'à présent, jusqu'avant la traction, le monde entier va aux États-Unis. Pourquoi ? Pour regarder, pour acheter, pour commander, pour s'inspirer, pour apprendre. La traction, le monde entier vient voir la traction pour acheter, pour apprendre, pour savoir. C'est un extraordinaire retournement. L'automobile française redevient leader au niveau de la conception de cette automobile. Alors, je disais, est-ce qu'elle est belle, cette voiture ? Évidemment, dans les canons esthétiques d'aujourd'hui, ce sera un peu compliqué. Si je vous montre ce montage qui sont une voiture en haut avec un châssis, une voiture en bas, une monocoque avec sans châssis. Vous l'avez compris, je ne connais pas, autant on connaît la taille des voitures, mais on ne connaît pas les tailles de ces mannequins. On a probablement pris ici une femme très grande, mais qui arrive quand même péniblement avec son coude à avoir le coude à la portière. Et là, oui, elle est plus basse. Est-ce qu'elle est plus belle ? Pourquoi je pose cette question ? C'est tout simplement, est-ce que, comme chez Peugeot, Henri Thomas, est-ce que Citroën s'est offert les talents d'un styliste ? Eh bien oui. Eh bien oui, et là on voit combien en fin de compte, dans le secret des bureaux d'études, les stratégies sont assez proches. Voilà le designer de chez Citroën, le styliste, c'est un Italien, Flaminio Bertoni, naturalisé français, un sculpteur, un homme de talent, qui va dessiner en fin de compte cette traction. Alors, il dira lui-même, j'ai pas eu trop de mal, pourquoi ? Parce qu'elle est basse. Et parce qu'elle est basse, elle est plus facile à dessiner. Il n'empêche, le voilà sur une très mauvaise photo, mais on le voit ici en train de dessiner sur une maquette. Et puis, je voudrais quand même vous montrer ce cliché qui peut-être va vous paraître étonnant. Je le trouve fantastique. Parce qu'il montre, en fin de compte, tout ce qui est en route, là. D'abord, Flaminio Bertoni est à droite, à droite de la photographie. Mais il y a, derrière lui, il y a deux croquis. Ces deux croquis, qui sont à l'échelle 1, montrent, en fin de compte, la grande réflexion des designers, des stylistes, sur quoi ? Sur cette fichue face avant. Sur l'avant des voitures, ces deux phares proéminents qu'on a partout. Et là, qu'est-ce qu'on devine ? Je dis bien, on devine. Bien, on devine qu'on est en train d'essayer d'intégrer le phare dans quoi ? Bien, dans l'aile de la voiture, qui reste toujours un peu taco. Alors, est-ce qu'il faut l'arrondir ? Est-ce qu'il faut le rendre anguleux ? Il y a de la réflexion. Et puis, deuxième élément, mais là, il faut des yeux de 20 ans. Donc, il y a longtemps que vous avez compris que j'ai vu cette photo. C'est le siège sur lequel est assis Flaminio Bertoni. Moi, ce siège-là, pour moi, c'est une référence d'architecture. C'est un siège, ceux qui aiment l'automobile diront, c'est un siège de deux chevaux. Oui, nous n'y sommes pas encore, comme quoi c'est en route. C'est surtout un siège de l'école de l'architecture du Bauhaus. Ça veut dire combien on a, en fin de compte, juxtaposition des talents, et on a besoin, en fin de compte, de 1000 regards pour arriver à l'évolution de l'automobile. Alors, est-ce que Flaminio Bertoni arrive à modifier l'avant d'une traction avant ? Mais voilà le premier travail. Voilà comment Bertoni, ce projet qui ne verra pas le jour pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais ça ne fait rien, on travaille. Et je n'arrête pas de dire que dans une crise, il n'y a qu'une solution, c'est innover. Maintenant, mettez-vous 2 secondes à la place des concurrents. Et vous savez, quand la traction avant sort, il y a 2 choses. Ou bien vous fermez boutique, ou bien vous vous battez. Eh bien, il y en a un qui se bat. C'est Peugeot. Peugeot qui, devant l'extraordinaire traction avant, sort un modèle, la 402 de deuxième génération, qui est une voiture qui, en fin de compte, a coupé le souffle. Elle est déjà plus moderne que la traction. Et si vous regardez les deux voitures côte à côte, la 402 en haut, la traction en bas, elles n'ont que 1 an et demi d'écart. On s'aperçoit déjà l'évolution incroyable faite par les stylistes. Ça veut dire, cette voiture est aérodynamique, celle du dessus. Regardez bien, les roues arrière ont des flasques pour permettre à l'air de passer. L'arrière a ce qu'on appelle la queue de castor qui permet de couper, en fin de compte, les mauvaises turbulences. Ici, l'aération du moteur passe par des emboutis alors que là, c'est encore des trappes. On n'arrête pas d'innover. Et innover, bien sûr, dans une face avant. Cette face avant, je vous la montre pourquoi. Parce qu'elle est, très, très formatrice. D'un seul coup, quand vous avez une voiture comme ça qui se trimballe dans la rue, au premier coup d'œil, vous savez que c'est quoi ? Une Peugeot. Et là, Peugeot vient d'inventer quelque chose d'extrêmement fort dans la logique industrielle de toute l'automobile, c'est l'identité visuelle. Avec un coup d'œil, vous savez que c'est une Peugeot. Et ça veut dire que toutes les Peugeot vont être dessinées maintenant avec quoi ? Avec ce même avant pour bien montrer que c'est une Peugeot et c'est pas autre chose. Aux autres constructeurs de trouver le petit truc qui fera qu'il y aura une identité visuelle sur une marque. Alors, Peugeot continue avec ce qu'il avait déjà inventé sur notre voiture et on peut juste se poser une question, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Eh bien, Peugeot, dans les archives Peugeot, on trouve des documents fantastiques. On trouve cet engin qui montre en 1936 que, ben, oui, on peut toujours aller plus loin. Quand on laisse la liberté aux ingénieurs de créer, on peut avancer. Cette voiture que vous avez sous les yeux, c'est un projet de Peugeot. Un projet de grosse voiture, un projet de grosse voiture. Alors bien sûr, votre œil, je le sais, par quoi il est attiré, par quoi il est scotché. Par l'aileron arrière, cette espèce de dorsale de dauphin qui est là. Ce n'est pas le plus important, si vous me permettez. Le plus important, c'est quoi ? D'abord, on remarque ici le nez d'une Peugeot. Mais regardez bien cet extraordinaire flux de l'air. On est en train de dessiner une voiture autour de l'air qui passe. Cette voiture, elle est faite avec le même moteur que la 402. Cette voiture, elle va 30 km à l'heure plus vite et elle consomme moins d'essence. On vient de comprendre la logique de l'aérodynamisme, ou tout au moins d'essayer de comprendre les logiques de l'aérodynamisme. Regardez bien le pare-brise. Il n'est plus plat, comme sur toutes les voitures. Il est enfin arrondi. On a du mal à le faire. Saint-Gobain ne sait pas trop comment faire. Et puis, bon, cette dorsale, je vous dis pourquoi, c'est parce que c'est pour... Peugeot voulait être sûr qu'en tenue de cap à haute vitesse, elle puisse, en fin de compte, bien tenir. Elle s'avérera épouvantable par voie latérale. Donc, c'est un dessin. Est-ce que ça existe en vrai? Eh bien, oui. Il y a eu, effectivement, quelques prototypes de ce véhicule absolument étonnant. Et je voudrais juste... pour terminer cette réflexion sur la crise, montrer ces deux clichés. Vous avez à droite la voiture faite en série en 29. Vous avez en 36 la voiture au sortir de la crise. Vous avez tous compris qu'en moins de 10 ans, l'automobile française vient en fin de compte de montrer toutes les caractéristiques générales d'une voiture d'aujourd'hui. C'est incroyable de voir comment, aussi vite, lorsque les talents ils peuvent s'exprimer, on peut arriver à des voitures très modernes. Alors, vous devez imaginer que je suis complètement en train de parler uniquement de deux marques, de Peugeot et de Citroën, et que je suis donc un inconditionnel de ces marques. Pourquoi je ne parle pas de Renault? Parce que Renault se trompe. Parce que Renault imagine que la crise va passer. Et Renault ne fait rien. Et Renault attend que la crise passe. Et là, on a, en fin de compte, des stratégies différentes des constructeurs. On voit combien les constructeurs automobiles, eh bien, ils ont le choix de savoir ce qu'ils... Ils ont le choix où ils dépensent de l'argent dans l'innovation, où ils attendent. Renault attend. Renault, écoutez, voilà ce qu'il sort. Il sort une voiture lambda. Lambda. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Rien. Elle est sympa, elle est mignonne, surtout elle n'est pas chère. C'est un prix. Et là, j'ai trouvé cette archive dans les archives personnelles de Louis Renault, donc le patron. Vous avez vu qu'il y a simplement un chiffre qui est très évocateur. Cette voiture sort le même jour, c'est le hasard des calendriers, le même jour que la traction Citroën. Quand Citroën voit la traction avant, il est tellement épouvanté par cette voiture tellement hors du temps qu'il n'a qu'une chose à faire, c'est baisser le prix de vente de sa voiture. C'est le seul argument. Entre nous, c'est la pire des politiques. C'est-à-dire qu'il est en train, en fin de compte, de réduire, quoi donc, sa marge bénéficiaire. Donc ça veut dire que face à l'innovation de Citroën, il répond par quoi? Par un abaissement du prix de vente, autrement dit, de sa marge. Renault est en train de glisser vers des terrains difficiles, compliqués. Alors, pour ne pas oublier Renault va sur les hauts de gamme. C'est une bonne chose, surtout que cette photographie est faite par Robert Doisneau, donc c'est forcément joli, surtout à l'époque du printemps. En fait, Renault va vers quoi? Renault va vers des voitures plus petites, en se disant peut-être il faut aller vers les voitures populaires. Cette voiture que vous avez sous les yeux, j'en parlerai juste deux minutes parce qu'elle mérite juste un petit détour. Elle est peut-être très bien. Elle a une innovation. Je veux bien. C'est une monocoque, donc copié sur Citroën, mais tant mieux, c'est fait pour ça, le progrès. L'innovation, c'est qu'elle n'a que deux portes, alors que toutes les voitures jusqu'à présent avaient combien? Avaient bien sûr quatre portes. Cette voiture, malheureusement, c'est une copie. C'est la pire des choses pour un industriel, c'est que Renault l'a copiée. Renault l'a piquée, si vous voulez, à un Allemand qui s'appelle Opel, qui est une filiale de la General Motors. Il l'a volée, et donc il a acheté une voiture, et il a demandé à ses ingénieurs ils ont sorti la même voiture. Pourquoi? Ils l'ont trouvée bien, et donc ils l'ont faite. Il y aura un procès, Renault va le perdre, une vraie catastrophe. Autrement dit, là où je voudrais que nous y allions ensemble, c'est sur la réflexion sur la petite voiture. Est-ce qu'en temps de crise, en dehors de 1, le design, 2, la gamme, 3, l'innovation et la traction, est-ce que je n'ai pas une quatrième solution qui serait la petite voiture? La voiture, je dirais, encore moins chère que la traction. Mais je pense que oui. Et j'ai envie de vous... d'aller un peu plus loin, même si le temps, je n'aurai pas le temps de tout couvrir, mais on s'arrêtera à une césure, quitte à avoir une deuxième séance, à vous imposer une deuxième séance. La question qui se pose, et il faut revenir un peu dans l'histoire de Citroën, C'est, est-ce que l'attraction, je vous assure, elle est exceptionnelle? Est-ce que c'est la bonne voiture? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que tout simplement, la lecture des archives, c'est terrible. C'est qu'on est, on lit ce que les présidents ont comme documents et on voit ce qu'on leur apporte. Et André Citroën a connu un moment très compliqué. Pour vous dire tout, en 1934, André Citroën, qui est la meilleure voiture, vous venez de le voir, on va quand même la montrer parce qu'on a l'impression que c'est une voiture qu'il faut oublier, pas du tout, c'est la meilleure voiture, la traction avant. Malheureusement, cette voiture, elle n'est pas au point. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite très très vite, parce qu'André Citroën a voulu la sortir avec la crise, il a voulu qu'elle sorte le plus vite possible. Elle n'est pas au point. Autrement dit, qui fait la mise au point? C'est la clientèle. Ce qui n'est jamais une bonne chose pour une voiture. Et donc, c'est vrai que les premiers modèles sont fragiles. Après, ce sera un engin increvable. Les premières voitures sont sorties trop rapidement. Surtout qu'André Citroën avait poussé très, très loin l'innovation en demandant deux choses à ses ingénieurs. En plus de tout ce que nous avons vu, hein, la monocoque, la traction avant, il y a les freins hydrauliques aussi, c'était une des premières. André Citroën demande deux choses. Il demande, un, le moteur diesel. Vous imaginez? Le moteur diesel, deux, la boîte automatique, 34. Et le malheur, c'est que le moteur diesel, il y a un problème de droit industriel avec Shell, et André Citroën trouve que c'est trop coûteux, les droits, et donc il va retarder, et donc il va prendre un moteur au dernier moment, un moteur un petit peu, pas fait en perruque, mais ce ne sera peut-être pas le meilleur des moteurs de Citroën. Mais, vous l'avez compris, les Français ne sont pas des motoristes dans l'âme. Mais surtout, le problème, c'est la boîte de vitesse. Citroën a beaucoup cru dans la boîte automatique, en imaginant que la grande contrainte des conducteurs, et surtout des conductrices, c'était quoi? Il y a deux contraintes pour la femme dans l'automobile. C'est, un, le démarreur en manivelle, il a été évidemment remplacé en 1914 par Kettering aux États-Unis par le démarreur électrique. Et la deuxième contrainte, c'est l'embrayage et la boîte de vitesse. Et donc Citroën se dit, si je mets une boîte de vitesse automatique avec deux pédales, je vais permettre au plus grand nombre de conduire, il n'y aura plus la difficulté de l'embrayage et de la boîte de vitesse. Et sa grande idée, et sur le papier l'idée est remarquable, c'est de faire en fin de compte une boîte automatique qui permette donc à tout le monde de conduire. Elle va être faite, elle va être mise au point, et pour avoir lu les PV d'essai, on s'aperçoit qu'elle ne marche pas. Les essayeurs vont aux Pays-Bas. Quand même, les Pays-Bas, je veux dire, c'est pas le Tourmalet. Hein. Ils vont aux Pays-Bas et la voiture n'arrive pas à grimper sur les digues. Si vous imaginez. Donc, parce que alors, tout le monde dit, mais c'est à cause du moteur, il n'est pas assez puissant. En fait, la transmission ne sera pas au point. Et donc, à force de reculer, la mise en place, le lancement de la boîte de vitesse automatique, Citroën se retrouve sans boîte de vitesse. Et donc, lorsqu'il lance les premières voitures en série, il lance des voitures qui n'ont pas de boîte de vitesse. Est-ce que vous achèteriez une voiture chez votre concessionnaire et on vous dit, dans deux mois, vous avez la boîte de vitesse? C'est pas un excellent argument de vente. Et donc, vous voyez comment Citroën, en fin de compte, aurait pu faire un buzz, comme on dit aujourd'hui, exceptionnel avec cette voiture. Ben, il a un peu raté parce que tout n'est pas au point. Puis quand je dis pas au point, la monocoque n'est pas tout à fait au point. Les premiers passages à grande vitesse sur un passage à niveau, il y a quelques conducteurs qui se sont retrouvés avec une voiture avec la carrosserie cassée en deux. Parce qu'elle est trop rigide. Il va falloir un petit peu la rendre un peu moins rigide. Elle n'est pas au point. Les transmissions, les cardans, c'est la première fois qu'on fait une traction avant, les cardans cassent 500 km, c'est un peu rapide. Bon, c'est de la mise au point, ce sera mis au point, mais là, évidemment, on touche à un point fondamental, c'est qu'une voiture doit être au point quand elle est lancée. Toujours est-il que ces difficultés vont faire que Citroën va avoir un lancement difficile de la traction avant, malgré ses qualités, hein, difficile, et André Citroën est obligé de déposer le bilan en 1934. En décembre 1934, Citroën tombe en faillite, l'entreprise est donc vouée peut-être à disparaître, sauf qu'elle est récupérée, reprise Alors, la faillite est du 22 décembre, si ma mémoire est juste, 34. La boîte est reprise le 5 janvier 35. Vous avez tous compris, dans la semaine des confiseurs. Ça veut dire que tout était prévu à l'avance. Quelqu'un a racheté la mise. Pourquoi ? Parce que vous savez, comme moi, quand vous achetez une entreprise qui est en difficulté, vous ne la payez pas cher du tout. Vous allez rembourser ou pas du tout les fournisseurs et vous avez une boîte en or ou presque. Celui qui la rachète, c'est un constructeur de pneumatiques qui s'appelle Michelin. Et Michelin reprend Citroën en 1935. Dans quelle idée ? L'idée, c'est qu'il y a une voiture merveilleuse. Il faut la mettre au point, c'est rien. Ça prend 3 mois et c'est au point. 2, il y a des usines exceptionnelles depuis longtemps. Et 3, c'est la grande idée des Michelin, c'est qu'avec une période de crise économique où les constructeurs américains et anglais, n'oublions pas, la livre sterling a été dévaluée, le dollar a été dévalué, donc les pneus Dunlop ou les pneus Goodyear sont moins chers, ils sont en train d'attaquer le marché français, ils sont en train peut-être de prendre les parts de Michelin en France. Donc Michelin, qu'est-ce qu'il fait en reprenant Citroën ? Il achète tout simplement son client. C'est aussi simple que ça. Il rachète son client. Toujours est-il que Michelin, en 1935, se trouve donc propriétaire de Citroën. Et on lui annonce ceci. On lui annonce, voilà le programme, traction avant, tellement bien. On va la multiplier en trois modèles. La petite, la 7, la moyenne, la 11, la grande, la 22. Tiens, Citroën aussi est passé du Fordisme à quoi ? Au Sloanisme. Est passé de la logique Ford à la logique GM. Comme quoi ? Quand Michelin voit ça, le programme, il dit non, on ne fera pas ça, parce que moi, je n'y crois pas. Mais quand il dit « moi, je n'y crois pas », évidemment, il va aller voir chez Citroën, donc Michelin va voir chez Citroën, va voir chez lui, mais il va voir comment on analyse le marché. Et là, stupéfaction, Michelin se rend compte qu'il n'y a pas dans l'automobile de grande série chez Citroën, il n'y a pas d'étude de marché. Et, pour vous donner le pendant, chez Peugeot, il n'y a pas d'étude de marché. Chez Renault, il n'y a pas d'étude de marché. Autrement dit, on fait de la grande série avec des millions d'investissements. Avec quel outil de mesure des marchés ? Je dirais, c'est le doigt mouillé. Et c'est incroyable de voir comment les industriels ont pu se lancer dans des sauts, en fin de compte, financiers aussi énormes, sans avoir sous-pesé ce que pouvait être un marché. Ce que fait Michelin tout de suite, Michelin qui est très, très, très au fait de tout ce qui est taylorisme, fordisme et études de marché, il sait que ça existe aux États-Unis, il achète la méthode de marché américaine, il l'importe chez Citroën, et il dit maintenant au boulot. Et c'est là que arrive la réponse. Est-ce que la traction avant est la bonne voiture ? Michelin dit, attendez, là, ce programme 7, 11, 22, stop, arrêtez, c'est un leurre. La 22, je n'en veux pas, dit Michelin, elle ne se vendra jamais en temps de crise. Impossible, on abandonne. On se concentre sur la 7 et la 11. Et là, Michelin a cette phrase. Alors, la 7, c'est bien, c'est le modèle d'appel. La 11, c'est celle où on gagne de l'argent. Et là, Michelin a cette phrase épouvantable, il dit, seul problème, c'est que la 7, elle est trop chère. Même la 7, la petite, elle est trop chère. Et il s'appuie sur quoi pour dire cela ? Sur les premières études de marché qu'il a fait faire. Et je vous les résume en une phrase, deux phrases. 1. La traction avant est vendue 17 700 francs. C'est pas marqué ? C'est pas marqué. 17 700 francs. On va interroger, 2. On va interroger les Français partout, hein, c'est pas, on ne prend pas la population de Saint-Malo et on. Non, non, c'est une étude nationale. Première question. 1. Voulez-vous une voiture ? 110% disent oui. 2. À quel prix voulez-vous avoir une voiture ? L'extrême majorité, c'est 10 000 francs. La traction coûte 17 700 francs. Réponse de Michelin. Eh bien, écoutez, c'est bien joli d'avoir aucune étude de marché. Résultat, vous avez beau faire la meilleure voiture, vous êtes à côté de la cible du marché de crise. Et donc, dit Michelin, eh bien, il va dire à André Lefebvre, l'homme de l'attraction, au boulot, dans le bureau d'études, et vous refaites tout, vous repensez tout. Et vous allez maintenant faire une voiture à combien ? À 10 000 francs. Et cette voiture à 10 000 francs, la voilà. La voilà, cette exceptionnelle photographie des études des techniciens de Citroën. C'est une photo pour moi admirable parce que d'abord on y voit une camaraderie, on y voit d'abord des gens heureux de leur métier. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent la voiture révolutionnaire que Michelin a demandé à son bureau d'études. Vous l'avez reconnu tous, c'est bien sûr l'ancêtre de la deux chevaux, bien sûr. On ne l'appelle pas encore deux chevaux, on l'appelle TPV pour toute petite voiture. Et cette voiture, croyez-moi, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais autant que l'a été la traction avant, mais dans un autre registre. La traction avant, c'est en fin de compte une adaptation remarquable de la voiture existante. La TPV, c'est tout est réinventé, tout est refait, tout est reconstruit, tout est pensé, même l'usine est pensée autour de cette voiture. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? D'abord, elle est faite autour d'un prix, première chose. On ne fait pas une voiture autour de la technique, on fait une voiture autour d'un prix. Et comme on veut arriver à 10 000 francs, eh ben, on veut évidemment faire une voiture où c'est un rapport avec le prix. Juste une petite précision sur le prix. Vous allez voir qu'on n'est pas très loin du 21e siècle avec cette TPV. 10 000 francs, une TPV. Une traction, donc non pas la petite, la 7, la 11, c'est combien ? J'ai une image qui le montre. C'est 28 000 francs. Vous me permettez d'arrondir les chiffres. Une 2 chevaux, c'est donc le tiers d'une traction avant, pas la petite, là, celle, la vraie traction. Mais écoutez-moi bien, ce rapport-là, ce rapport un tiers, eh bien, imaginez qu'une Logan, c'est le tiers d'une Laguna quand elle sort. Autrement dit, Citroën, sans le savoir, vient d'inventer le low cost. À condition qu'il y arrive, bien sûr. Mais vous voyez combien les réflexions de l'histoire servent évidemment à éclairer les temps présents. Alors, comment est-ce qu'on fait une voiture à 10 000 francs ? Ben, écoutez, vous avez tout sur l'image. On invente tout. On invente tout. Je suis sûr que vous êtes d'abord étonné par un seul phare. Je retourne la question. Pourquoi vous en mettez deux ? C'est tout. Si, vous allez me répondre, le code de la route demande d'en avoir deux. C'est vrai. Mais en 1935-36, c'est un seul phare. Pourquoi en mettre deux ? Mais là, vous économisez, croyez-moi, beaucoup d'argent. Tout ce qui est électrique coûte très cher. Tiens, puisqu'on parle de phare. Dans les archives, je crois que c'est l'une des plus belles archives que j'ai trouvées. Un ingénieur explique que dans un phare d'automobile, vous avez deux ampoules. Une ampoule à deux filaments qui permet de faire le feu de croisement et le feu de route, qu'on appelait autrefois le code et le plein phare. Mais vous avez à l'intérieur du phare une minuscule ampoule qui permet de faire ce qu'on appelle le feu de position. Vous savez, dans votre voiture, c'est la première position que vous n'utilisez jamais, la deuxième position, vous êtes en feu de croisement. Pourquoi est-ce que vous avez une première position ? Parce que le code de la route a décidé que nous devons avoir sur toutes nos voitures un feu de position. Et ça coûte cher, un feu de position. Pourquoi ? Parce que c'est une ampoule, une douille, 2 mètres de fil, d'écosse, ça coûte cher. Et là, un ingénieur a cette idée, pour moi, elle est politique. Il propose au bureau des méthodes, donc les méthodes, ce sont ceux qui s'occupent de l'organisation industrielle de l'usine, il propose une idée lumineuse, si j'ose dire, c'est de supprimer l'ampoule des feux de lanterne par une bulle de verre dans laquelle on aurait inséré une luciole. Et la réponse des méthodes, avec un humour à mon avis à peine caché, c'est: comment fait-on des lucioles en grande série ? Après, je n'ai pas la suite. C'est dommage, mais c'est extraordinaire. Mais attendez, cette voiture, il y a des ingénieurs qui disent: mais arrêtons le métal, passons au bois. Voiture en bois, en contreplaqué. Et là, les méthodes disent: attendez, nous, on a quand même un outillage derrière qui est... On est quand même des métallurgistes. Hein. Alors, se mettre au contreplaqué, d'abord, à l'eau, ça ne tient pas terrible. Bon, mais il y a de vrais débats. Attendez, sur le matériau, vous avez tous remarqué une chose quand même, c'est que pourquoi faire un toit en tôle ? Regardez, il n'y a pas de toit en tôle. On fait un toit en toile, pourquoi ? Parce que la toile est beaucoup moins chère. Il ira jusqu'au coffre à l'arrière. Donc, on essaie d'économiser partout. Regardez bien les vitres. Je pense que vous connaissez tous les vitres de deux chevaux. Hein, voilà. Et bien, pourquoi sont-elles comme ça ? Pour économiser les clignotants. Elles s'ouvrent à moitié pour mettre le bras. Le code de la route, et oui, le code de la route précise tout simplement que vous devez mettre le bras du côté du conducteur quand vous tournez. Tout est là. Dans une deux chevaux, tout est démonté. Pourquoi ? Pour arriver à une économie. Regardez bien. Ici, vous avez quoi ? La manivelle. Ici, il n'y a pas de manivelle. Il y a un autre démarreur. Donc, il y a un grand débat chez Citroën. Est-ce qu'il faut avoir le démarreur électrique ou pas ? Je vous l'ai expliqué. C'est fondamental pour les femmes. L'idée qui a failli passer, c'est de mettre dans un moteur de deux chevaux, dans du TPV, de mettre un démarreur à ficelle. Vous savez, comme sur la tondeuse à gazon, comme sur la débroussailleuse, comme sur le hors-bord. Le grand problème, c'est que si vous mettez ça à l'intérieur de la voiture, vous le mettez au milieu, et avec votre coude, ben vous assommez votre voisin ou voisine. Bon, donc ça ne marche pas. En plus, c'est là où les archives parfois sont délicieuses, c'est que le patron de Citroën, enfin un homme de chez Michelin qui s'appelle Pierre Boulanger, emmène tout le temps sa fille pour essayer. Pour elle, c'est le test. Je ne sais pas pourquoi. Et Mademoiselle Boulanger se casse un ongle. Donc, vous comprenez bien qu'on retire immédiatement le démarreur à ficelle parce que Mademoiselle Boulanger s'est cassé un ongle. Je me dépêche. Voilà jusqu'où on peut aller quand on fait des économies. Ça s'appelle la porte guillotine. Vous avez en fin de compte pas d'emboutis, pas de charnière. Vous avez un rond qui tourne. Vous le lancez, vous passez. Voilà. Ah, votre marmaille se tait tout de suite hein, quand elle passe mal, là. Bon, des sièges comment ? Il n'y a pas plus confortable que ça. Et écoutez, je terminerai sur cette image. La voilà, elle est prête, en 39. Malheureusement, elle sort la première voiture en usine sort en septembre 39. Pas une bonne date. Il y a des choses à faire. Voilà. Je me suis arrêté à la guerre. Je continuerai. Voilà. Merci beaucoup.
Bravo et merci. Bravo et merci, c'était pas cela. Donc vous revenez, on vous a dit qu'on est déjà plus en cela. Hein, donc votre talent porteur, vous m'avez demandé, est réel. Donc merci beaucoup pour votre contribution.
Merci à vous. Absolument. Oui. Alors écoutez, vous me permettrez de les mettre tous les deux dans le même panier, si j'ose dire. Je pense que les Allemands sont incontestablement en tête dans la motorisation. Mais je crois que je suis allé vite là-dessus parce que mon propos n'était pas d'expliquer l'émergence de l'automobile, mais il ne suffit pas d'avoir un très bon moteur pour réussir en automobile. Je pense que les Allemands sont incontestablement les motoristes du début du siècle, incontestablement. Malheureusement, il leur manque quelque chose. Il manque à l'automobile allemande, je dirais, d'abord l'engouement. La population allemande n'est pas passionnée par l'automobile. Pourquoi ? Et là, on voit combien, quand même, les choses sont... les temps n'ont pas changé. Les Allemands détestent ce qu'est l'automobile par rapport à la nocivité notamment des gaz d'échappement. Il y a de très longues plaintes des Allemands par rapport aux voitures qui sentent mauvais. On voit la fibre écolo, la fibre grune, c'est incroyable de voir que déjà, en fin de compte, on s'oppose à ça. Pourquoi on s'y oppose en Allemagne ? Parce que l'Allemagne a connu une deuxième révolution industrielle extrêmement rapide, poussée par les empereurs Guillaume Ier et Guillaume II, et il y a un rejet de tout ce qui pourrait être industrialisation trop rapide. Et l'automobile, ça devient peut-être ce que l'on montre du doigt avant de bien réfléchir. Il y a un deuxième élément qui, à mon avis, est plus important. Il n'y a pas de route en Allemagne. Je dis bien, il n'y a pas de route en Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'unification allemande est très tardive. Ça veut dire qu'elle date bien sûr de 1871 de Bismarck. Et autrement dit, vous avez bien sûr des routes en Bavière. Vous avez des routes dans le bas de Württemberg. Mais comment vous allez de l'un à l'autre ? On s'aperçoit que le réseau routier est centré sur les Landes, sur les Länders, mais ne passe pas d'un Länder à l'autre. On a le même problème en Italie. La réunification italienne de Garibaldi est très tardive, et donc on voit et en Allemagne et en Italie, l'automobile bute à cause des réseaux routiers. La France est un pays centralisé depuis toujours. L'époque gréco-romaine, la monarchie, la Révolution française, tout est centralisé. Tous les ordres viennent de Paris. Le réseau routier est donc partout en France. Vous voyez, la route est... Dernièrement, les États-Unis. Pourquoi l'Amérique devient-elle la voiture que très tardivement, je dirais au tout début du XXe siècle? Parce qu'il n'y a pas de route aux États-Unis. L'automobile aux États-Unis, elle est urbaine. On ne franchit pas la ville avec sa voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de station d'essence, il n'y a rien du tout. Donc vous n'y allez pas. Et puis vont venir les routes, vont venir les pompes à essence, elle va partir. Mais ce n'est pas avant 1905-1910.
Bon, vous avez un grand stock de questions, donc monsieur, vous voulez le voir la semaine prochaine, qui sera la suite de l'histoire.
Avec plaisir.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous avez peut-être deviné que j'étais Gazza.
Non. Enfin, je me doute un peu.
Enfin, il y en a beaucoup. Celui qui vous faut, il y en a 20 dans la salle.